Radio Kapi.
Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité au nord Kivu, l'arrivée à Watalinga du renfort des troupes des FARDC rassure les habitants. Conséquence, ceux qui avaient fui en Ouganda regagnent déjà les localités de Nobili et de Kamango. Plusieurs dossiers sur les violences sexuelles traînent en ce moment au tribunal militaire de Beni Boutembo Lubero, faute de magistrats. Le réseau pour les droits de l'homme demande au gouvernement central d'augmenter le nombre d'instructeurs. Notre invitée, c'est la directrice du Centre d'éducation et de recherche pour les droits des femmes. À Kisangani, dans la Tchopo, Madame Claudine Bella réclame l'abolition de la peine de mort en RDC. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président turc est arrivé cet après-midi ici à Kinshasa après son accueil à l'aéroport international de N'Djili par des membres du gouvernement conduit par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Recep Tayyip Erdogan a eu un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Le programme prévoit la signature dans la capitale congolaise de certains contrats suivis d'un point de presse qui sera animé par les deux chefs d'État. On enchaîne avec le Nord Kivu où l'arrivée des troupes de FARDC en renfort hier de leur position dans la chefferie de Watalinga rassure les habitants. Ce dimanche matin, déjà, certains déplacés qui avaient quitté Nobili et Kamango pour se réfugier en Ouganda ont commencé à retourner chez eux. La société civile plaide pour des patrouilles de combat dans la zone pour renforcer la sécurité de la population. C'est ce que nous explique à Beni Marc Marofimo.
C'est depuis trois jours maintenant que les FARDC renforcent leur position dans la chefferie de Watalinga. Les sources locales indiquent que les troupes sont déployées dans les parties sud-est et sud-ouest de la chefferie où plusieurs villages s'étaient vidés de leurs habitants, lesquels se sont réfugiés en Ouganda après les dernières attaques attribuées aux ADF. Un élément de satisfaction pour les défenseurs des droits de l'homme dans la région qui souligne que l'espoir renaît. David Mouaz est le coordonnateur de l'ONG Action pour la défense des droits de l'homme en chefferie de Watalinga.
La population s'est lamentée de voir qu'on avait moins d'effectifs dans le rang des FARDC, même si l'UPDF était vers Mokakati, mais ça ne rassurait pas. Alors, comme il y a eu quand même un renfort considérable, la population commence à avoir des apaisements. Le déploiement dans les zones plus affectées par l'activisme de l'ADF commence à donner une assurance à la population.
Cette information est confirmée par l'armée qui indique que ces renforts entrent dans le cadre de la sécurisation de la zone pour les retours progressifs de la population dans les villages affectés. Ce dimanche matin, nos sources nous renseignent que certaines familles ont traversé la frontière par le pont Lamia pour rejoindre Nobili, Kamango et d'autres localités qui avaient été abandonnées il y a quelques jours suite à l'insécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Dans le Tanganyika, le chef Butondo appelle les autorités militaires à augmenter les effectifs des FARDC dans les zones en proie à l'insécurité. Cet appel intervient après l'incursion des Maïmaï à Panapale dans le village de Butondo situé à 95 km au nord de Nyunzu. Bilan, 6 personnes tuées dont 2 soldats, 12 blessés et 30 autres enlevés. Il est au micro de François-Xavier Mibé.
Les miliciens à Panapale ont tué 2 éléments FARDC et 4 civils. Ils ont blessé 12 personnes et enlevé 30 autres, hommes et femmes. 29 viennent d'être libérés. Une seule femme, incapable de marcher, est restée en brousse auprès des miliciens. Auparavant, ils étaient arrivés et avaient tué, par lynchage, 3 militaires. Et aujourd'hui, 2 autres militaires sont morts dans une incursion. Et d'autres effets de communication militaire emportés. Ma maison n'a pas été épargnée. Elle a été sabotée à coups de balle. Que l'État augmente les effectifs militaires dans nos zones. Des militaires nourris, soignés et dotés des moyens de transport capable de poursuivre les ennemis.
Revenons au Nord Kivu où plusieurs dossiers sur les violences sexuelles traînent au tribunal militaire de Beni Boutembo Lubero faute de magistrats instructeurs. Le coordonnateur du réseau pour les droits de l'homme demande au gouvernement central d'augmenter le nombre d'instructeurs. Maître Mouindo Ouassivignoua affirme que tous les dossiers qui couvrent de Kanyabayonga à Eringeti ne sont traités que par deux juges militaires débordés par le volume du travail. Il est au micro de Florida Kambu.
Nous sommes dans une période exceptionnelle où tous les dossiers sont instruits par les magistrats militaires, que ce soit au niveau du parquet, aussi qu'au niveau du tribunal. D'abord, par rapport au tribunal, jusque-là, nous n'avons que deux juges pour tous les grands nord, les deux territoires et les deux villes. Les deux juges du tribunal militaire de garnison de Beni Butembo Lubero, ils sont débordés. Plus de 200 dossiers qui ont été portés devant eux, au moins ils ont aussi jugé 76 dossiers, seulement en matière de viol. Imaginez d'autres dossiers, les gens qui ont tué, les ADF, tous les dossiers sont portés devant eux. Ce qui est réellement un problème qui doit interpeller les autorités pour trouver une solution. Vous allez trouver par exemple les territoires de Lubero qui est très surpeuplé avec beaucoup de conflits, surtout liés à la terre ainsi qu'aux groupes armés. Il n'y a aucun magistrat militaire. C'est seulement la ville de Butembo avec environ 800 à 900 000 habitants où on a un seul magistrat militaire au parquet détaché de Butembo. Pour les territoires de Beni, aucun magistrat militaire.
L'actualité, c'est aussi cette réaction ici à Kinshasa du sénateur Augustin Matata Ponyo après son interdiction d'aller à Lubumbashi pour enterrer sa jeune sœur. L'ancien premier ministre dit ne pas comprendre cette décision qui lui a été communiquée par les services de l'immigration. Une décision qu'il dit ne pas comprendre, d'autant plus qu'aucune raison ne devrait l'empêcher de voyager librement. Il s'est dit victime d'une injustice. Il a été joint par Noël Aluzitu Kabambi.
Je suis arrivé à l'aéroport avec mon épouse parce que je devais aller enterrer ma jeune sœur, celle qui vient juste après moi. Il m'a été dit par le chef de section aéroport de la Direction générale des migrations que M. Matata, vous n'êtes pas autorisé à voyager. Je lui ai posé la question. Il m'interdit de voyager. Il dit que c'est une décision qui vient d'en haut. Je suis étonné parce qu'il n'y a aucune raison qui peut m'empêcher de voyager aujourd'hui parce que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui indique l'incompétence de la Cour constitutionnelle à pouvoir juger un ancien Premier ministre que je suis. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires immédiatement et s'imposent à tout le monde dès la présence de la République aux citoyens le plus tôt. Mes immunités, je les ai. Je ne les ai pas du fait de M. Matata. Je les ai du fait de la Constitution de la République. Je suis prisonnier politique dans mon propre pays. Et pendant ce temps, on chante l'état de droit. L'état de droit, on le voit dans le concret, dans la protection des libertés des individus, dans la mise en œuvre des droits des individus.
Et puis 40 ans se sont écoulés depuis la disparition de Jean-Didier Bolikango, l'un des leaders de la lutte contre la colonisation et initiateur du parti de l'unité nationale Puna. Lors de la célébration de cet anniversaire ici à Kinshasa, le président de ce parti politique a appelé les Congolais à l'unité nationale pour la reconstruction du pays. Élisée Bokumwana s'est confié à Paul Matendo.
Jean-Didier Bolikango, c'est le tout premier Congolais qui a participé dans le gouvernement belge pendant la colonisation. Nous, on est les fruits de cet initiateur, de ce grand parti de l'unité nationale que nous demandons à ce que le peuple congolais puisse adhérer parce qu'il a montré de quoi le pays devrait décoller à travers ses initiatives. Et aujourd'hui, nous, sa progéniture, nous sommes en train d'aller si la ligne de conduite est tracée par cette icône de la République démocratique du Congo. Et sa mémoire, nous ne l'oublierons jamais. Immortaliser, c'est continuer le combat qu'il nous a légué. Cet homme, le grand homme, l'icône de la République démocratique du Congo par rapport à l'avènement du pays, à l'indépendance et à la souveraineté. National.
Autre nouvelle, ce soir, le syndicat des enseignants des écoles primaires publiques de la RDC demande au gouvernement d'uniformiser la prime de gratuité en ce mois de février. Dans une déclaration faite à la presse hier à Kinshasa, le secrétaire général de ce syndicat dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise catégorisation des écoles primaires. Ignace Mbala Keto demande par conséquent aux enseignants d'être unis pour défendre leurs droits. Des propos recueillis par Noël Aluzitu Kabambi.
Nous, enseignants des écoles primaires publiques de Kinshasa, étions réunis pour réfléchir sur les points suivants. L'inégalité de la prime de gratuité, la déconsidération des enfants des enseignants du primaire dans des écoles secondaires. S'agissant du premier point, personne n'ignore les montants que nous avons touchés. Jusqu'à présent, nous ne comprenons pas quel a été le critère auquel le gouvernement a classifié les catégories des écoles. Les unes, 200 000 francs et les autres, 30 000 francs. Sur ce, nous demandons au gouvernement d'uniformiser la dite prime dès ces mois de février 2022. Quant au deuxième point, les enseignants des écoles primaires sont victimes des chasses dans des écoles secondaires, d'où nous demandons au ministre national d'instruire aux ministres provinciaux en charge de l'éducation l'application stricte de leurs arrêtés. De ces faits, nous avons jugé bon de créer une structure propre aux enseignants du primaire public dont le comité a été mis en place. Ainsi, nous demandons à tous les enseignants du primaire d'être unis pour défendre nos droits en toute légalité.
Notez que la présidence nationale de ces syndicats est assurée par Rigen Intumbi. Partons maintenant pour la Tchopo où le médecin chef des zones de santé qui avait obtenu gain de cause après la suspension par la cour d'appel de Kisangani d'une nouvelle mise en place signée par le gouverneur intérimaire en septembre dernier dénonce ce jour-ci le bicéphalisme à la tête de leur juridiction sanitaire. Selon eux, cette situation est favorisée par les autorités et qui ne veulent pas se soumettre à la décision judiciaire. Reportage à Kisangani de Jacques Mokonkole.
Ils sont au nombre de 6 les médecins qui dénoncent le bicéphalisme dans leurs entités sanitaires, à savoir les zones de santé de Kabondo, Lubunga, Yakusu, Bengamisa, Bafouakbobo et Opiengé. Selon eux, le chef de division provinciale de la santé, le docteur Francis Bailongandi, continue à collaborer avec les anciens médecins pourtant rejetés par la justice, consacrant ainsi une certaine dualité dans la gestion de leur juridiction sanitaire.
Tout d'abord, entre les membres de l'équipe 4, parce qu'il y a déjà les cadres de bureau central qui sont gérés par les deux chefs. Donc il y a déjà un problème de confiance entre les collaborateurs et les médecins chefs de zone. L'autre conséquence, la relation aussi entre les équipes cadres et les populations locales des zones de santé. Donc la population n'arrive pas à se situer devant quel médecin chef de zone s'est confié.
Pour sa part, le chef de division provinciale incriminé dit attendre la réaction de l'autorité provinciale par rapport à cette décision judiciaire.
La justice a écrit à l'autorité provinciale et s'il y a une décision finale à prendre, c'est par voie administrative une autre commission ou une lettre qui va demander à ce que l'on puisse mettre maintenant que c'est tel et tel à ce.
En attendant ces nouvelles dispositions administratives, la dualité se poursuit de plus belle dans les entités sanitaires concernées. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'Institut français de Bukavu a organisé hier samedi un café littéraire sur la recension du livre intitulé « La force des femmes », une œuvre du prix Nobel de la paix Denis Mukwege paru en 2021. Cet ouvrage parle de l'impact des violences faites aux femmes, les violences sexuelles faites aux femmes dans la région des Grands Lacs, particulièrement en RDC et au Sud Kivu. Radio Okapi Bukavu, Rachel Kiesembangu.
Étudiants, lecteurs, écrivains et chercheurs de la ville de Bukavu ont pris part à ce café littéraire, une activité organisée dans le but d'amener les publics à lire ce livre, à en comprendre le contenu, mais aussi d'influencer les autorités du secteur éducatif à réaliser que les ouvrages des écrivains locaux peuvent aussi servir de matière pour les élèves. Bernard Sebahire, chercheur et orateur de l'activité.
Par ces livres, Dr Mukwege essaie de montrer que la femme a beaucoup de valeur. La femme, c'est une force. Et nous, les hommes, nous avons le devoir de les accompagner dans leur quête. La quête dans ce livre, c'est l'égalité de sexe. C'est aussi briser le silence. C'est parmi les thématiques qu'on peut trouver à travers ce livre.
Cette activité a permis au public de s'exprimer sur la thématique des femmes dans nos sociétés. Moïse Makangara, l'un d'eux, s'exprime en ces termes.
Je suis toujours content de participer aux échanges qui mettent en avant les atouts des femmes. Et la réception m'a été utile dans la mesure où elle a permis à plusieurs personnes de s'exprimer d'abord sur les thèmes abordés dans les livres. Et il m'a également permis de pouvoir appréhender les différentes façons dont la femme est perçue dans la société.
Signalons que cette activité est une première de ce genre qu'organise l'Institut français de Bukavu. Rachel Kisimbangu, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Éthiopie a inauguré ce dimanche son grand barrage sur le Nil. Le projet destiné à être le plus grand du continent africain est au centre d'une controverse avec l'Égypte et le Soudan. Ces deux pays voisins s'inquiètent du futur débit du Nil. Le premier ministre Abiy Ahmed parle d'un grand projet qui renforce davantage l'image de l'Éthiopie alors que la guerre se poursuit ces jours-ci dans le nord du pays. Un sommet des principaux pays producteurs de gaz se tient à partir de ce dimanche à Doha au Qatar. Le forum réunit autour d'une même table 11 États membres. Sont absents aux assises l'Australie et les États-Unis qui représentent plus de 70% des réserves de gaz dans le monde. Cette réunion de Doha intervient ainsi au moment où la crise ukrainienne s'intensifie et où les Européens s'inquiètent davantage pour leur approvisionnement en gaz. Après avoir échangé ce week-end avec le président russe, Emmanuel Macron a appelé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui faire part de leur échange. Cet entretien était présenté ces dernières heures comme celui de la dernière chance pour négocier ainsi une sortie diplomatique à la crise ukrainienne alors que se multiplient ce jour-ci les violations du cessez-le-feu.
L'invité.
Notre invitée, c'est la directrice du Centre d'éducation et de recherche pour les droits des femmes. Madame Claudine Bella réclame l'abolition de la peine de mort en RDC. Elle a dit à Kisangani à l'Alliance française et s'entretient avec Jacques Mkonkole.
Madame Claudine Bella, bonjour.
Bonjour.
Vous avez organisé dernièrement un atelier de réflexion sur la problématique de la peine de mort en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a motivé cette réflexion?
Notre association met en œuvre un projet intitulé « Participation des associations féminines de la Tchopo dans la lutte contre la peine de mort ». C'est un projet qui a été appuyé par Ensemble contre la peine de mort. Et parmi les activités retenues dans le projet, il y avait entre autres la conférence sur la problématique de la peine de mort en République démocratique du Congo. Là, c'était en rapport avec la célébration de la journée mondiale contre la peine de mort qui est célébrée le 10 octobre de chaque année. Et on devrait animer cette conférence le 10 octobre 2021, mais il y avait certains impératifs qui ne nous ont pas permis de le faire. C'est comme ça que le 12 février, nous avions organisé maintenant cette conférence-là.
Quel est l'objectif poursuivi en abordant cette thématique?
En fait, nous voulons en tant que femmes intégrer le mouvement abolitionniste parce que la femme, c'est elle qui donne la vie. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, nous militons pour la promotion du droit à la vie. Donc on ne peut pas accepter que le droit à la vie soit ôté. C'est comme ça qu'on s'est dit, nous devons nous impliquer un peu dans cette thématique qui est une question hyper sensible où les gens ne parlent pas le même langage. Mais nous, en tant que femmes, quand nous nous impliquons, je pense qu'il y a des solutions idoines qui doivent être trouvées.
Madame Claudine, quelles sont les tendances qui se sont dessinées dans la salle lorsque les exposés ont été faits par les experts que vous avez invités?
En fait, il y avait deux tendances dans la salle. Il y avait d'un côté les abolitionnistes et de l'autre les rétentionnistes. Mais d'abord, les deux intervenants étaient tous d'accord pour l'abolition de la peine de mort. Quand bien même il y avait des rétentionnistes, mais on a compris l'importance du droit à la vie. Au finish, les gens étaient tombés d'accord pour que on continue à mener les plaidoyers auprès de nos parlementaires afin de voter une loi portant abolition de la peine de mort dans notre pays. Parce qu'on sait que notre pays est sous le moratoire, on n'exécute plus les gens depuis 2003, mais est-il que il n'y a pas encore un texte officiel qui dit qu'on a déjà aboli la peine de mort. Donc nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'abolitionnistes, nous devons continuer la sensibilisation, continuer les plaidoyers pour pousser les législateurs congolais à adopter cette loi-là.
Les rétentionnistes disent qu'en République démocratique du Congo, tous ces gens qui sont condamnés à mort, qui sont mis jetés en prison, finissent toujours par s'évader. Eh bien, donc, il faut absolument appliquer cette peine.
En fait, là, je ne suis pas vraiment pas d'accord avec eux parce que ceux qui s'évadent de la prison ne sont pas nécessairement des condamnés à mort. Non, la peine de mort doit être abolie officiellement. Toutes les personnes condamnées à mort par une décision judiciaire doivent purger leur peine en prison. Donc on doit les garder en prison. On ne peut pas ôter la vie de quelqu'un. La vie humaine est sacrée. D'ailleurs, c'est repris même dans notre constitution, ça s'est repris dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, même dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on ne peut pas tuer les gens. Si une personne est reconnue coupable pour telle ou telle autre infraction, elle est punie par la loi, elle purge sa peine en prison.
Mais dans les prisons congolaises, les conditions ne sont pas bonnes. Les prisons congolaises sont semblables au mouroir, madame.
Pour cela, il faut maintenant améliorer les conditions de détention. Chez nous, en République démocratique du Congo, on a encore des sérieux problèmes en cette matière-là. Nos lieux de détention sont en quelque sorte des mouroirs au lieu d'être des centres de rééducation. Alors, le plaidoyer que nous faisons chaque jour, c'est pour l'amélioration des conditions de détention. Mais il faut, cela passe par la réhabilitation des centres de détention, mais également aussi la prise en charge du personnel pénitentiaire. Parce que ces gens qui travaillent aux côtés des personnes condamnées, comment ils vont travailler s'ils ne sont pas rémunérés?
Par rapport aux objectifs que vous vous êtes assignés et au regard de réalité congolaise, quelle est votre position face à la peine de mort?
Promouvoir le droit à la vie. Donc, la vie humaine est sacrée, je le répète encore. L'abolition de la peine de mort est une nécessité.
Madame Claudine Bella, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, la directrice du Centre d'éducation et de recherche pour les droits des femmes. Madame Claudine Bella réclame l'abolition de la peine de mort en RDC. Elle l'a dit au micro de Jacques Mukonkole. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Noëlla Luzitu Kabambi qui a préparé ce journal que vous pouvez retrouver sur www.radiookapi.net.